Les micros de Fréquence Oscillée voyagent pour vous faire respirer et découvrir l'air du pays de la Haute-Sarthe. Et vivre des rencontres, des échanges, des entretiens en direct d'une manifestation, d'un lieu, comme si vous y étiez.
La 8e édition du festival Qui cloche s'est déroulée les 29 et 30 juin au prieuré de Vivoin. Fidèle au festival de petites formes spectaculaires à la campagne, organisé par l'association Festival en Pays de Haute-Sarthe, votre radio fréquencier y était pour une retransmission en direct. Tout l'été, retrouvez les interviews des artistes et des différents acteurs présents.
Et Fréquencier est en direct depuis Vivoin avec ce festival Qui cloche qui pour la deuxième fois plante ses tréteaux à cet endroit. Et on a l'occasion toujours de découvrir des spectacles toujours aussi étonnants, plus étonnants les uns que les autres. Alors, il y en a un que je suis allé voir tout à l'heure, et je veux dire que j'étais pas le seul à le piller de rire. C'était dans un petit coin, un tout petit coin, et vraiment le petit coin, le petit coin, quoi. Enfin, comme on dit, les toilettes, quoi. Pas parlons vrai, les toilettes. Vous n'avez jamais pensé à faire un spectacle dans vos toilettes? Eh ben, sachez que du côté de la compagnie La Pétroleuse et Nathalie Leflanchec, elle y a pensé. Et je regrette bien qu'on fasse de la radio et pas de la télé, parce qu'elle a en plus le loup. Donc, c'est la dame pipi que l'on reçoit ici. Alors, Nathalie Leflanchec, d'abord, présentez-nous un peu la compagnie, la pétroleuse. Vous venez du Morbihan.
Oui, on vient du Morbihan. C'est une compagnie qui est toute jeune, contrairement à moi, mais qui a 2 ans d'existence. Voilà, j'ai mis en scène un spectacle sur la sexualité en 2011, à l'ouverture, au début de la pétroleuse. Et puis, j'ai eu envie de quelque chose d'un peu plus léger et dans tous les sens du terme. Et j'ai donc mis en scène ce petit impromptu autour des toilettes. Voilà.
L'impromptu autour des toilettes, ben voyons. Oui, alors, ça commence de façon très étonnante avec quelqu'un qui va dans les toilettes, il ne sait pas pourquoi. Vous nous faites plaisir quand même en nous écouter quelques notes de la Calas avec la Norma.
Avec la Norma, parce que c'est un vrai délice en fait aussi en ce qui me concerne de me faire plaisir aussi avec des musiques que j'aime.
Et on est bien d'accord, rien ne remplace la voix de la Calas.
C'est merveilleux, c'est vraiment merveilleux et ça apporte une douceur, une poésie autour de ce sujet qui est quand même relativement, difficile. Enfin, disons voilà, c'est il faut y amener de la poésie.
Un sujet, on dirait, difficile à manipuler, mais que vous manipulez au maximum tout
voilà.
De même.
Donc, je fais rentrer les gens dans les toilettes sous cette air d'opéra. Et Violette Cyclamen, qui est donc le nom du personnage de la Dame Pipi que j'interprète, est fondue d'opéra.
Ça m'a rappelé un peu le sketch de Jean-Yann sur les routiers.
Ah, bon, pourquoi?
Ouais, parce qu'ils ont un sketch comme ça où ils sont 2 routiers en Marseille et tout, et ils sont en train de commenter des œuvres classiques, ils sont en train d'écouter sur l'autoradio, et ils font des commentaires, et ça m'a rappelé ça.
Ah, c'est marrant. Oui, d'ailleurs, c'est tout à fait vrai, j'avais carrément oublié.
Alors, justement,
ça.
C'est le décalage qu'il y a entre votre personnage, comme on avait les routiers, c'était Paul Mercet qui était avec lui, le routier avec les poils qui sortaient des Marseilles et tout, et qui commentait des œuvres divines. Là, c'est pareil, la dame pipi qui commande quand même la Norma de Puccini en expliquant son amour pour Puccini, c'est vrai que c'est du paradoxe quand même.
Ce qui m'intéresse, moi, c'est de faire se côtoyer la trivialité et la poésie, ce qui est joli, l'esthétisme et à côté le côté trivial. C'est ça qui m'intéresse, c'est le décalage. Et puis de surprendre les gens, parce que pour moi le spectacle c'est ça que ça doit amener, c'est de surprendre.
Mais avec votre spectacle, pardon pour Puccini et la Calas, nous met un peu dans la merde quand même, disons-le de go.
Hein,
voilà, on va utiliser les vrais mots. Hein. Alors, c'est quoi cette histoire, cette idée autour du circuit du petit Colombin?
Dans les égouts. Voilà, donc c'est cette dame pipi qui reçoit les gens dans les toilettes, qui fait entrer une personne dans les toilettes, et puis qui va trouver à la sortie quand la personne va sortir des toilettes, va trouver un petit reste et elle va partir dans son délire sur le trajet de la plupart des étrons, qui on sait que c'est un des noms de...
Mais vous en sauvez un quand même.
Sauve un, donc voilà, et elle a une curieuse... donc après ce petit exposé sur le passage des étrons dans les égouts qu'elle illustre avec un petit théâtre d'ombre chinoise, histoire de rester dans la délicatesse et le côté joli. Elle a en plus une petite fantaisie, c'est qu'elle a fait un petit cabinet de curiosité et qu'elle y entrepose quelques perles.
Alors le cabinet de curiosité, ça nous ramène plutôt à un monde de préciosité, c'est précieux ça. Et le fait de l'associer à cette idée, c'est un peu comme l'idée d'associer Puccini à la Dame Pipi, quoi. Enfin, vous êtes dans le paradoxe.
Oui.
Complet.
Oui.
Et c'est ça qui crée justement cette situation plutôt drôle.
Loufoque.
Pour le public, loufoque.
Et
oui.
Voilà. Et on va tous aux toilettes. On est tous face à cette trivialité. Et en même temps, rien n'empêche de...
Alors, revenons sur le théâtre d'ombre. Oui. Le moment où vous expliquez justement la progression jusqu'au final. Comment tout ça est finalement détruit. Le théâtre d'ombre, c'est quelque chose que vous pratiquez aussi en dehors de ce thème-là ou...
Pas du tout. C'est la première fois. C'est juste que quand j'ai commencé, le point de départ du spectacle, c'est que j'avais envie déjà d'être dans un endroit atypique. Donc je me suis, les toilettes se sont imposées. C'est un endroit ça fait longtemps que j'avais envie de faire quelque chose dans ce genre de lieu. Et je me suis tout de suite posé la question, ok, qu'est-ce que je peux raconter dans ce lieu-là, comment? Et bon, j'ai commencé à construire mon petit truc comme ça, cette idée autour du caca, voilà. Et puis, pour moi, c'était le seul moyen, visuellement, après tout un tas de réflexions autour du début de ce spectacle, ça s'est imposé, en fait, le théâtre d'ombre. C'est pas spécialement un choix, mais c'est juste que ça s'imposait par rapport à ce que je voulais faire. Donc voilà, je m'y suis lancée. C'est un peu costaud le théâtre d'ombre. Techniquement, c'est un peu compliqué parce qu'il y a beaucoup de gestion au niveau de l'éclairage, des distances par rapport au Castellet. Enfin, ça demande beaucoup de précision et dans la manipulation et dans l'éclairage. Et voilà, c'est pas toujours.
Alors, tous les montages qu'il y a derrière pour faire circuler justement, c'est vous qui les avez fabriqués, imaginés.
Oui.
Avec des outils, des tuyaux, des choses comme ça.
J'ai tout fabriqué moi-même avec mes petites mains, de manière très artisanale et empirique.
Quand on le fabrique, parce que quand on fabrique ça, on le fabrique avec la vision de celui qui est évidemment en train de regarder, pas avec la vision de celui qui est en train de fabriquer. Comment on arrive à faire rentrer tout ça, c'est-à-dire parce que la meilleure idée technique n'est pas forcément la meilleure en termes de visuel. Enfin, vous avez des fois des difficultés de choix.
Bien sûr, il y a des choses qu'on aurait envie de faire et puis qu'on garde pas parce qu'on peut s'amuser avec derrière, mais on se rend compte que devant ça passe pas, que c'est pas très efficace. Donc tout ça, c'est un travail de couche et de surcouche. Ce spectacle là j'ai commencé à le jouer au mois de novembre 2012 là, mais il a évolué. Pour moi, c'était une première mouture, et aussi avec le retour avec le public, j'ai réaffiné des choses pour que ce soit plus clair. Et ce sont des choses qui se font. Pour moi, de toute façon, un spectacle, quand je le présente une première fois en public, n'est jamais terminé. Et il a besoin du retour du public pour prendre sa forme définitive.
Alors là, vous êtes dans la proximité totale avec le public.
J'adore ça.
Hein, vous êtes mêlé au public directement. Le public, il se dit même, quand il y a quelqu'un qui se fait avoir, comme toujours dans le public, il y a des gens qui disent... Pourvu que on me demande
qu'on
rien,
demande pas.
Que je me trouve pas dans la même situation. Vous ressentez cette inquiétude du public qui dit où est-ce qu'on est?
Bien sûr que je la ressens et j'en profite un maximum parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. J'aime énormément être en complicité avec les gens et être en contact direct avec eux. C'est aussi, pour moi, ça fait vraiment partie du spectacle, de mettre les gens dans des positions pas toujours très évidentes, mais après tout, il n'y a pas de raison qu'ils restent tranquilles dans leur fauteuil. J'aime bien déstabiliser un peu les gens, et puis aussi avoir tout simplement cet échange complice, et je trouve très important.
Mais alors ce type de spectacle, sur ce thème-là, qui demande un lieu particulier, vous pouvez pas le présenter trop souvent, en fait, trop partout, non?
Il y a des toilettes partout, c'est ça qui est formidable. Et personne ne pense à aller jouer dedans, donc je me suis dit, c'est très bien ça. Si, c'est possible dans les festivals, bien sûr, c'est possible dans plein d'endroits. Après, c'est une petite forme, donc évidemment, c'est difficile de proposer ce spectacle-là tout seul, comme c'est en plus très très court, voilà. Mais c'est assez assez facile finalement de proposer ça, cette proposition.
Alors, est-ce que c'est la première fois avec votre compagnie que vous venez ici sur Qui Cloche?
Alors, avec la compagnie de la pétroleuse, c'est la première fois, puisque la compagnie, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, est récente. Mais je suis venue, je crois, il y a 3 ans avec une autre compagnie qui s'appelle Scopitone, et je jouais la petite marchande d'allumettes, qui est un spectacle que je tourne toujours. C'est un peu le même genre de principe, dans le sens où c'est aussi une petite forme très courte et où il y a aussi cette complicité, ce rapport proche avec le public.
Scopitone, c'est ce groupe de Rennes.
Oui, tout à fait. Oui, compagnie de marionnettes et théâtre de jeu, avec qui je travaille depuis quelques années.
Qui venait de façon régulière d'ailleurs sur ce festival. Et vous avez travaillé avec eux donc.
Et je travaille toujours avec eux également.
D'accord. Dans cette compagnie, la pétroleuse, vous êtes nombreuses à...
Bon, je dis compagnie de la pétroleuse, pour l'instant, c'est un petit peu...
C'est vous, c'est plus un peu, quelques
c'est
amis,
c'est moi toute seule.
Dans
l'immédiat, c'est moi toute seule. Mon souhait est évidemment que cette compagnie s'épanouisse et
alors pourquoi la pétroleuse? Parce que c'est un peu comme sur le spectacle ici, il y a un peu de truculence.
La pétroleuse, c'est vraiment le Je pense que c'est ce qui me colle le plus. J'ai cherché quelque chose qui révélait voilà l'état d'esprit que je mets dans mes spectacles, qui est toujours un petit peu provocant, gentiment provocant cela dit, mais oui. Voilà. Et puis la pétroleuse, outre le film de Roger Vadim, si je ne m'abuse, mais c'est
Bardot.
Aussi avec Brigitte Bardot et Claudia Cardinale. C'est surtout avant tout les femmes féministes sous la Commune qui ont mis le feu aux barricades. C'est le côté revendicatif. Vraiment militant et c'est quelque chose qui me va bien, je pense. Voilà,
il faut militer aussi des fois pour se sortir de la merde.
Voilà, tout à fait. Il y a besoin souvent.
Absolument.
Avec le sourire quand même.
Et avec le sourire.
Voilà.
Voilà, donc ce mot ayant été choisi volontairement pour rappeler que le spectacle que vous présentez donc ici dans Qui Cloche se déroule dans un lieu d'aisance où on trouve quelques notes de poésie et de beauté artistique. Un bon moment à passer, en tout cas, dans les toilettes à Vivoin, ici, au Prieuré. Incroyable, mais vrai. Et c'est avec Nathalie Leflanchec, qui représente ici donc la compagnie de la pétroleuse, qui vient de Kervignac, dans le Morbihan. Voilà, c'est un moment à voir. Si vous venez sur Qui Cloche, là, en ce moment, là, vous êtes sur la route, ne ratez pas, il y a encore
deux séances,
moments.
Une à 18h et une à 18h15.
Il y a encore de la place dans la cuve. C'est
voilà.
Bon. Merci Nathalie, on vous laisse retourner donc à vos œuvres.
Merci à vous.
L'après-midi avance tout doucement sur Vivoin, près du Prieuré, où on peut découvrir toutes sortes de spectacles présentés par des troupes venues de régions bien bien différentes, parfois bien éloignées de notre Sarthe. Et puis il y a aussi des endroits d'exposition. Tout à l'heure, on a eu le plaisir d'entendre un témoignage sur une action qui avait été menée du côté de Tours, dans des IME, sur des créations d'objets. C'est intéressant toujours cette histoire de liaison entre des acteurs du territoire et puis des compagnies artistiques. Là, j'ai Franck Vial avec moi ici en direct dans ce studio. C'est l'association de passage à Vézé, c'est le secteur de la Ferté-Bernard, c'est presque chez nous.
C'est ça.
Voilà, et vous avez donc, vous êtes amené à travailler avec la MFR de Fier. Là, on est sur le pays de Haute-Sarthe, Fier tout près d'Alençon. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est fait avec ces jeunes qui avaient autour de 14 ans, c'est ça?
C'est ça, 14-15 ans.
Expliquez-nous.
Alors, l'idée, c'était à la demande de Qui Cloche et d'Hubert Gégard, qui nous avait demandé, en partenariat bien sûr avec la directrice de la MFR, de
Marie-Paul, qu'on salue.
et aussi pour sa disponibilité, son engagement. Et pour le coup, voilà, ce qu'ils nous demandaient, c'était de matérialiser par le biais d'une petite structure, sculpture végétale sans prétention, de matérialiser le passage de ces élèves qui sont en troisième et qui vont être réorientés ou vers la vie professionnelle ou vers le lycée. Et pour le coup, voilà, on a essayé déjà de s'inspirer un petit peu, de découvrir les lieux. Alors, ça voulait dire quoi ? Ça voulait dire faire connaissance avec les végétaux présents, apprendre à les reconnaître, apprendre leurs vertus, par exemple, les plantes médicinales, ce qu'on appelle les simples, apprendre à identifier des arbres ou des arbustes. Voilà, faire un peu le tour de ce petit monde végétal en présence. Et puis, après, de collecter des matériaux dans le but de composer avec ces matériaux-là. Ça s'inspire de ce qu'on appelle le land art.
Donc quelque chose qui symbolise le passage pour eux. Mais alors, cette notion n'est pas une notion qui est évidente dans la tête de quelqu'un. Un passage, c'est par définition immatériel. Vous avez voulu rendre ça matériel. Alors,
exactement.
C'est quoi la démarche pour faire avancer tout le monde en même temps ?
Alors ça, c'est intéressant parce que pour le coup... On était venu quand même avec quelques billes dans notre sac, en leur proposant de travailler sur le nid et sur le fait de sortir du nid justement. Et ce qui nous semblait aussi important, c'est que ça soit pas simplement une idée qui viendrait de nous. Et on les a invités à compléter cette idée-là sans leur présenter au début. Donc, en leur posant la question dès le matin, comment vous symboliseriez un passage si vous deviez le rendre sculpture ou dessin. Et on leur a laissé la matinée pour réfléchir à ça. Donc, pour le coup, voilà, entre-temps, on a été apprendre des choses, on s'est baladé un petit peu autour. Et l'après-midi, au début d'après-midi, avant de commencer, bien sûr, on s'est mis d'accord sur ce qu'on allait faire. Et ce qui est ressorti, c'est qu'on travaillerait sur le nid. Donc ça, c'était l'idée qu'on avait proposée.
Alors, c'est étonnant, le nid pour la notion de passage, alors que le nid, par définition, c'est plutôt l'image, au contraire, de s'incruster, de rester au même endroit, à l'abri. Étonnant.
Exactement. Donc en fait, il faut que je précise un peu, l'idée, c'était de sortir du nid.
Ah,
mais
bon.
Pour sortir du nid, il fallait un nid. Et donc, on s'est transformé comme ça un peu en oiseau. On a tissé des branches, etc., pour réaliser un nid. Et après, leurs idées sont venues se greffer dessus. C'est-à-dire, il y avait l'idée de l'œuf qui s'est retrouvé finalement dans la structure finale suspendue au-dessus du nid, et de l'envol. Alors, il y a eu deux structures où, en fait, on voit des ailes qui sont stylisées, symbolisées, où justement, il y a le passage de cet œuf-là qu'on voit suspendu et qui s'en va.
Alors, on commence déjà à mieux voir. C'est quoi ? C'est gros, c'est petit,
c'est gros,
cette structure ?
C'est gros pour faire la sieste dedans. Suffisamment grand pour faire la sieste dedans.
C'est-à-dire que c'est à taille humaine.
C'est un grand nid.
Ah oui, d'accord. Alors, ça, vous l'avez réalisé avec les jeunes. Qu'est-ce qui vous intéressait ? C'était de faire ou que eux découvrent finalement une démarche de création ?
Alors,
c'est la finalité ou l'action ?
Moi, je dirais que le chemin se fait en marchant. En fait, c'est vraiment précisément... la finalité, elle est juste le résultat d'une action. Mais il n'y a pas de... L'objectif, c'était pas de rendre la chose présentable. L'objectif, c'est que ça soit vraiment leur production, qui ne soit pas arrangée pour faire joli pour le festival après. C'était simplement que ça révèle et que ça reflète ce qui s'est passé dans la journée, c'est-à-dire apprendre à découvrir ce qui se passe autour, commencer à composer avec des éléments techniques et puis éventuellement apporter des aides matérielles et techniques au moment où ils en avaient besoin pour aller vers ce résultat, en fait pour servir leur projet qui était initié par nous.
Alors on est dans une œuvre plastique en fait.
Voilà.
Est-ce que quelqu'un qui voit l'œuvre, par exemple ici, elle est présentée ici.
Oui.
Donc quelqu'un qui voit l'œuvre ici, est-ce qu'il comprend tout de suite en voyant cette œuvre la démarche qu'il y a eu avant ? En gros, est-ce que le producteur a dans la tête la même chose que le consommateur, celui qui regarde ? Ou est-ce que on est dans un autre monde d'imagination finalement ?
Alors, je crois que c'est le propre de toutes les œuvres d'art, c'est qu'il y a, enfin, je sais pas, si on prend l'exemple d'un livre, il y a
plusieurs lectures possibles.
Voilà, il y a celui qui l'écrit, il y a celui qui le lit, et donc, pour le coup, je crois que c'est bien d'avoir cette liberté-là. de juste le regarder avec les yeux qu'on a à ce moment-là. Et puis si on veut en savoir plus, eh ben, il y a eu un petit écriteau.
Voilà, pour essayer de comprendre la démarche, ouais, la raconter. Voilà. C'est souvent que vous travaillez avec des jeunes sur des créations de ce type. L'association Le Passage et vous-même, Franck Biel.
Régulièrement, oui, c'est un peu notre activité de base. L'idée étant de trouver des moyens et des supports pour participer à une meilleure connaissance de l'environnement.
C'est-à-dire que vous êtes à la disposition de structures scolaires, socioculturelles.
Voilà. C'est ça.
Vous avez d'autres exemples que vous pouvez nous citer d'actions un petit peu différentes que ça menait ici avec FIE et donc la complicité de Créateurs Compagnie.
Oui, alors par rapport au Land Art, il y a plusieurs choses. Il y a des installations que moi je peux faire à titre personnel aussi. Mmh. L'idée étant toujours de s'inspirer du lieu. En fait, c'est le lieu et les matériaux
qui déterminent
le projet. Voilà. Mmh. Moi, quand j'avais fait une formation comme ça en Franche-Comté, on nous parlait beaucoup de l'esprit des lieux. Et c'est, en fait, c'est s'imprégner un peu de l'endroit et de voir comment on peut servir ça, servir son idée, son inspiration du moment, en étant en phase avec l'endroit.
Voilà, donc on peut voir cette œuvre ici.
Oui.
Hein, donc après, on pourra la voir ailleurs. Qu'est-ce qu'elle va devenir ?
Non, elle va rester, se décomposer sur place. C'est ça le propre du Land Art.
À Fier ? Ou ici ?
Ici
même.
A priori, elle va rester.
Ici même, voilà.
Faudra redemander.
Très bien. Donc c'était l'occasion d'aborder une vision de l'art un peu particulière, le Land Art. Hein, tout le monde connaissait peut-être pas ça, donc ces explications sont toujours intéressantes. On se couchera ce soir un peu plus intelligent qu'on s'est élevé ce matin, et c'est ça une bonne journée. Finalement, donc merci Franck Viel d'être venu jusqu'à nous pour
avec
évoquer
plaisir.
Cette action que vous avez menée avec l'association Le Passage d'Avezé en lien avec la MFR de Fier. Et on resalue à nouveau Marie-Paul qu'on embrasse. Voilà. Et dans quelques instants, on aura un nouveau rendez-vous à ne pas rater. Celui-là va être aussi très original puisque c'est le trio Musica Humana que nous aurons ici, et je crois qu'ils vont même nous interpréter au passage quelques morceaux comme ils le font d'habitude, puisqu'on les a eus, je crois, sur un autre festival précédemment. Ils vont nous en parler, ce sera vers 17h30. Voilà, merci à vous.
Merci.
Et on se retrouve dans quelques instants, toujours en direct depuis Vivoin et ce festival qui cloche, qui n'a toujours pas fermer ses portes, vous pouvez toujours y venir, bien évidemment.
Les micros de Fréquence Oscillée voyagent pour vous faire respirer et découvrir l'air du pays de la Haute-Sarthe et vivre des rencontres, des échanges, des entretiens en direct d'une manifestation, d'un lieu, comme si vous y étiez.
La 8e édition du festival Qui cloche s'est déroulée les 29 et 30 juin au prieuré de Vivoin. Fidèle au festival de petite forme spectaculaire à la campagne, organisé par l'association Festival en Pays de Haute-Sarthe, votre radio fréquencier y était pour une retransmission en direct. Tout l'été, retrouvez les interviews des artistes et des différents acteurs présents.